Le titre de mon message, c'est « Il y a ici plus grand que le temple ». Évidemment, on parle de Jésus. Et c'est Jésus qui le dit dans un texte que nous allons lire. Prions d'abord. Seigneur, nous voulons nous recommander à toi et te remercier pour le cœur qui sont déjà disposés à écouter ta parole. Seigneur, comme un semeur, comme un laboureur, Seigneur, laboure nos cœurs, sème encore dans nos cœurs, que du travail que tu fais dans nos vies découle une vie, une vitalité, un témoignage à ta plus grande gloire. Merci Seigneur de nous exposer à ta parole ce matin et de nous permettre de pouvoir nous enrichir les uns les autres à travers cette parole. Conduis-nous par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 12, je vais lire du 1er au 8e verset. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim et lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables ? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Alors, imaginez-vous un instant, vous êtes français, je sais que l'un des rares français dans le coin, c'est Gérald. Bon, vous êtes français. Nous sommes en 1900, t'es pas français toi? Ok, ça va, il refuse. C'est bien. Tu es français quand même, hein? Tu n'es pas le seul.
Non, c'est moi qui refuse
de
l'être, mais je suis.
Ah, tu l'es, voilà. Je me disais bien que je... Ah, mais il y a un autre français là, un Alsacien en plus. Un vrai qui le dit même. Bah, lui aussi, il est vrai, mais il ne veut pas. Alors, imaginez que vous êtes français. On est en 1944. Le pays est sous la domination allemande. On entend que les alliés gagnent du terrain et qu'un débarquement est imminent. Nous sommes en juin. Imaginez que vous apprenez que non seulement ce débarquement a eu lieu, mais que ça a été un succès, que l'armée des alliés est en train d'avancer, en train de gagner du terrain et en train de conquérir. Vous, vous êtes encore à Paris. Ce n'est pas encore la Normandie. Mais vous entendez ça. Quel est votre sentiment? N'est-ce pas que vous êtes content? Vous êtes fier? Vous anticipez déjà cette délivrance et vous dites, waouh, on va être délivré. On va pouvoir être sauvé. Imaginez maintenant l'administration allemande qui vous dirige à cette époque-là, qui vous maltraite, qui vous fait tant de mal et qui entend que très bientôt, ils vont devoir s'enfuir. Imaginez dans quel état ils sont. Comment est-ce que vous allez vous sentir? N'est-ce pas comme quelqu'un qui est du côté du plus fort, du côté de ceux qui vont venir, qui gagnent? Et ce matin, j'aimerais à travers ce message que nous puissions saisir cette chose, saisir le fait que nous sommes du côté du gagnant, du plus fort, Jésus-Christ, et que nous sommes en marche vers quelque chose d'incroyable, vers la victoire. Mais cela, bien sûr, dépend si nous y croyons ou pas. Pourquoi est-ce que nous sommes en marche vers la victoire? Parce que il y a ici quelqu'un de plus grand que le temple. Il y a avec nous celui qui est le maître du sabbat. Dans ce texte que nous venons de lire, les pharisiens reprochent à Jésus le fait que ses disciples froissent les épis et les mangent un jour de sabbat. Or, il est interdit d'exercer une activité quelconque le jour de sabbat. Et la réponse de Jésus est très intéressante. Elle nous permet de nous rendre compte que de qui est Jésus et de savoir aussi de quel côté nous sommes avec Jésus. J'aimerais faire simplement deux choses. Je vais reprendre les deux arguments de Jésus et je vais dire en quoi ces arguments-là marquent une exception dans la loi de sabbat et pourquoi ça marque une exception. Il y a là deux éléments qu'on va aussi ressortir, deux arguments puis deux éléments et puis on va tirer une conclusion avec cela. Voici les deux arguments que Jésus donne aux pharisiens face à ce reproche où, voilà, tes disciples violent le sabbat en mangeant les épis de blé. Et ben, alors Jésus donne deux arguments. Premier argument, il invoque, tu peux remonter, hein, voilà. Il invoque d'abord cet argument au verset 3 avec le roi David qui est allé manger les pains de proposition, lui et ses serviteurs. Et en faisant cela, en fait, ils ont enfreint la loi. Ils ont enfreint la loi puisque la loi, selon la loi, ces pains ne pouvaient être consommés que par les sacrificateurs. Mais ils ont fait cela. Alors, c'est quoi les pains de proposition? Dans le temple, à l'époque, ils sont encore avec le tabernacle, il y a cet espace du lieu saint dans lequel on va placer 12 pains. Parce que Dieu avait dit que vous devez tous les sabbats, donc de sabbat à sabbat, on doit placer 12 pains. Et les 12 pains sont là que Dieu regarde constamment dans sa présence, devant lui, pour lui rappeler le lien qui existe entre lui et les 12 tribus, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Et donc, ces 12 pains sont là en permanence, et tous les sabbats, on les change. Et David va donc se permettre de demander au sacrificateur qui était à l'époque, et le sacrificateur va lui dire, ce sont des pains consacrés, mais si tu les veux, tu peux les manger. David, à l'époque, est dans une situation difficile puisqu'il est en train de fuir le roi Saül. Et donc, le roi Saül lui court après et il se cache. Et il se cache là. Il a un petit groupe de gens, à peu près une centaine, je crois que c'est 600 au total, des personnes qui sont avec lui. C'est une petite armée. Mais voilà qu'ils se retrouvent là chez le sacrificateur. Ils ont faim et ils demandent à manger. Et le sacrificateur lui donne à manger. Et il n'est pas mort. Il n'a pas été foudroyé, il n'a pas été condamné. Et lorsque Jésus donne cet argument aux pharisiens, les pharisiens, ils savent rien dire, puisqu'ils reconnaissent que David, c'est le grand roi, c'est le père de la nation politique, de la nation géographique, administrative, territoriale d'Israël. Ils savent que David, c'est un grand roi. Alors, ça veut dire quand même que, premier argument, Jésus dit, vous dites ça, mais il y a eu une exception dans l'histoire. David a mangé les pains des propositions. Premier argument. Deuxième argument, Jésus dit que le jour du sabbat, la loi autorise les sacrificateurs d'enfreindre la loi de sabbat, en mangeant, en travaillant, en ayant des activités, sans qu'ils soient condamnés. Et là aussi, c'est encore une autre exception qui est introduite dans la loi. Autrement dit, le message de Jésus, c'est de dire, mais finalement, ce n'est pas une loi qui est rigide, c'est une loi qui existe, il y a des faits qui montrent qu'il y a eu une exception dans l'application de la loi. Alors, pourquoi est-ce que Jésus invoque ces deux exceptions-là? Et c'est ça que je vais dire. Il les invoque pour mettre le doigt sur deux choses. Et ce sont ces deux choses sur lesquelles on va aussi un peu réfléchir. Première chose, à travers ces deux exceptions sur lesquelles Jésus veut mettre le doigt, c'est d'abord, Jésus veut mettre le doigt sur le légalisme des pharisiens. Les pharisiens respectent la loi d'une manière pure et simple. Et leur façon de respecter la loi entraîne qu'ils mettent des fardeaux sur les gens. À force de légaliser, vous savez qu'au départ, on a 10 commandements. Ok? Ensuite, il y a toute une série de lois. Vous savez combien il y a de lois au total que les Juifs doivent respecter? Vous savez pas? Il y en a plus de 600. Donc, à part les 10 commandements, pour mettre en pratique les 10 commandements, ils ont ajouté eux-mêmes des lois, des règles les plus nombreuses possibles qui finissent par alourdir la vie spirituelle des croyants. Donc, on leur met des fardeaux en leur imposant une observance des lois religieuses. Au lieu de trouver le repos, le calme, la tranquillité dans la relation avec Dieu, ces lois augmentent la culpabilité des gens et les devoirs religieux. Or, je ne sais pas si vous savez, le mot « sabbat » en hébreu veut dire « le repos ». Le repos. Donc, le sabbat, c'est un mot dans l'idée du sabbat, c'est que c'est le moment où on peut apporter un repos intérieur, un repos à l'intérieur de soi, la paix du cœur, parce que on retrouve Dieu. C'est un moment où on arrête toutes les activités qu'on a pour se retrouver avec Dieu, se ressourcer avec Dieu, pour se reposer dans le Seigneur. C'est ça la destinée du sabbat, c'est ça le sens du sabbat. Mais se reposer d'une manière intérieure, pas d'une manière extérieure, mais d'une manière intérieure. La paix du cœur, la communion avec Dieu, la relation avec Dieu. Or, les lois que les pharisiens imposent, ce sont des observances extérieur, qui ne change rien au cœur, qui ne touche pas le cœur de l'homme, mais qui touche sa façon d'apparaître, sa façon de faire les choses pour que les gens voient. On finit par coter les gens en fonction de la façon dont ils apparaissent, comment ils sont, mais ce n'est pas à l'intérieur. Pourquoi? Parce que les lois des pharisiens ne peuvent pas changer le cœur. Ils ne peuvent pas transformer quelqu'un. Seul Jésus change les cœurs et les vies. Seul lui, il vient apporter un véritable changement et par le Saint-Esprit, une transformation profonde. C'est ce que la Bible dit. Nous tous qui nous sommes approchés de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Première chose sur laquelle Jésus met le doigt, c'est cela. Un légalisme qui détruit au lieu de construire. Un légalisme qui vient imposer des fardeaux au lieu d'apporter le repos. Deuxième chose sur laquelle Jésus veut mettre le doigt, en parlant de ces deux exceptions, c'est il veut mettre aussi le doigt sur la pauvreté du légalisme et la limite de la loi religieuse. Puisque le sabbat était donné pour se rapprocher de Dieu, pour faire vivre la relation avec Dieu, c'est donc une loi qui est faite pour le bien des humains. En général, toutes les lois de la Bible sont faites pour le bien des humains. Toutes les interdictions de la Bible sont faites pour le bien des humains. Nous sommes dans une société très contestatrice, très rebelle, où nous croyons que tout ce qu'on nous interdit, c'est parce qu'on veut nous empêcher d'être réellement libres. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Quand Dieu interdit les choses, c'est parce qu'il sait que c'est pour notre bien. Et ça, c'est une dimension importante que aujourd'hui nous ne comprenons pas toujours. Donc la loi, elle est faite pour le bien des humains. C'est pour ça qu'il doit, la loi doit refléter le cœur de Dieu. Comment est Dieu? Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu plein de miséricorde. Et donc, la loi doit pouvoir porter une attitude de cœur qui témoigne de la miséricorde, comme Dieu. Comme Dieu. C'est ça le sens du verset 7. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Les pharisiens donc offraient des sacrifices pour se conformer à la loi du sabbat et pensaient ainsi servir Dieu. Ils pensaient qu'en accusant les innocents, ils étaient en train de faire la volonté de Dieu. Or, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, leur jugement ne repose pas sur la miséricorde. C'est un jugement dur, un jugement implacable, un jugement qui se fonde sur l'apparence extérieure de la loi. En fait, pourquoi fallait-il exercer de la miséricorde? Parce qu'ici, un bien que ce geste a fait était de permettre aux gens de pouvoir manger. Ils avaient faim. On prend les disciples, ils avaient faim. Quand on prend le cas de David, il avait faim. Et donc, ce bien qui est de donner à manger devient quelque chose de plus important qu'une observance stricte de la loi. Donc, les pharisiens poussaient l'interprétation jusque à déshumaniser en quelque sorte les lois. Alors, quand on regarde, je viens de vous le dire, quand on regarde, on pousse plus loin, les pharisiens avaient poussé l'interprétation de la loi tellement loin que finalement, la loi est devenue une loi humaine. Elle n'avait plus rien de spirituel. Elle était quelque chose conçu par les hommes. Pour les pharisiens, la loi de Moïse institue la fonction de sacrificateur et le travail dans le temple. Ça suffit. Ça, c'est l'essentiel pour eux. C'est là que se manifeste la gloire de Dieu. Respecter ça, c'est respecter Dieu. Or, Jésus va dire, il y a ici plus que quelqu'un qui est plus que le temple. Donc, Jésus se place comme supérieur à l'alliance de Moïse. Il se situe comme étant celui qui peut se permettre d'enfreindre la loi du sabbat. Pourquoi? Parce que c'est lui qui peut l'abroger. C'est lui qui peut y mettre les exceptions. C'est lui qui en est le législateur. Parce que c'est lui qui est Dieu. Arrêtons-nous un petit instant sur cette idée qu'il y a quelqu'un de plus grand que le temple. Peut-être qu'aujourd'hui, le légalisme, pour nous, ça ne nous dit plus rien. On regarde ces pharisiens, on dit, waouh, c'est vraiment des gens bizarres. Et puis nous, on est dans la nouvelle alliance. Nous, ça nous concerne pas, ça nous implique pas, puisque nous, dans la nouvelle alliance, on ne connaît pas tout ça. Aujourd'hui, nous ne vivons plus sous la loi. Nous vivons dans la liberté, sous le régime de la liberté. C'est ce que nous croyons. Mais ce matin, je voudrais vraiment que nous réfléchissions à « et si pour nous, le temple était plus grand que Jésus-Christ ?» Si nos principes, notre organisation en tant qu'Église, si notre façon de vivre notre vie d'Église avait une dimension où nous donnions plus d'importance à ce que nous faisons qu'à donner la gloire à Dieu. Si pour nous, notre vie était une vie où, finalement, le temple, c'est important. Regardez, pourquoi est-ce que beaucoup viennent au culte? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Comme disait le gars, j'ai déjà évoqué cet exemple-là, comme disait le gars qui était en Égypte, qui avait été l'objet de persécution, donc ce chrétien copte qui était persécuté, qui est venu en Europe, je ne sais pas dans quel pays, où il disait que finalement, parfois, on se rend dans l'église. Pourquoi? Pour avoir une promotion, pour se faire reconnaître, pour faire une place, devenir quelqu'un de visible, d'apprécié, quelqu'un qui est au-dessus des autres, quelqu'un qui dirige les autres, etc. Qui vient se satisfaire, qui a parfois ce qu'il a envie, et il vient apporter. Et ici, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit donc de situer Jésus comme étant le maître, le Seigneur, plus important que même l'Église, même son fonctionnement, même nos habitudes. Ça nous appelle à toujours, je ne dis pas que c'est le cas chez nous, ça nous appelle toujours à nous remettre en question en permanence pour savoir si ce que nous faisons, ça correspond avec des habitudes, des traditions qui se sont accumulées dans nos vies, ou bien ça reste ancré dans la parole de Dieu, c'est conforme à la volonté de Dieu par son esprit. C'est un devoir que nous devons avoir à faire tout le temps. Parce que si nous regardons Jésus comme étant plus grand que le sabbat, il y a beaucoup de choses qui, dans l'Église, pourront être faites sans que ça devienne quelque chose de choquant, en quelque sorte. On pourrait faire des exceptions sur certaines choses, certaines pratiques dans l'Église, sans que les gens puissent dire, mais zut, il est en train de faire quelque chose qui ne va pas. On pourrait être plus peut-être à l'écoute de l'Esprit pour savoir comment orienter les choses en fonction non pas de notre intelligence, non pas de nos traditions, mais en fonction de la volonté de Dieu. Si nous voulons situer Jésus comme plus grand que notre temple, notre église, plus grand que le temple, plus grand que l'institution là que Dieu a mis en place, plus important que cela, alors nous comprenons qu'il est beaucoup plus, il est beaucoup plus puissant que nous le situons. Dans ce sens, on peut comprendre la suite de la phrase qui dit « car le Fils de l'homme est le maître de sabbat ». Le sabbat est à son service et non pas le contraire. Ce n'est pas lui qui doit se soumettre au sabbat, c'est le sabbat qui doit se soumettre à lui. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. En disant qu'il est le maître du sabbat, n'est-ce pas qu'il se désigne comme étant Dieu? Alors, je vous ai dit que je ne vais pas beaucoup vous retenir ce matin, mais je voudrais vraiment que nous réfléchissions ce matin à ce rapport que nous avons avec Dieu. Est-ce que sommes-nous de ceux qui prenons l'habitude de prendre la distance par rapport à la loi, à cette caractéristique de la loi qui est l'observance extérieure, l'apparence, faire comme si? Ou bien sommes-nous de ceux qui recherchons de la profondeur, qui recherchons une rencontre encore plus profonde avec Dieu? Et si c'est le cas, alors nous savons que tout doucement il y a des choses, des valeurs qui vont nous habiter. Osée chapitre 6, verset 8, « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est quoi? C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » C'est ça le principe. Quand on commence à regarder Jésus comme plus grand et qu'on rentre dans la relation avec Jésus, le caractère, les qualités qui sont en lui commencent aussi à fonctionner au-dedans de nous. Et toutes ces choses sont là pour le bien des hommes. Dieu n'a pas fait ses lois pour faire souffrir les hommes, mais pour justement leur permettre d'aller de l'avant. Ce texte nous invite à changer notre regard et peut-être à mieux ajuster notre manière de servir Dieu. servir avec compassion, servir finalement avec amour. Ce texte nous invite à nous rendre compte de qui est véritablement Jésus. Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus est tout puissant? Levez un peu la main ceux qui pensent à la puissance de Jésus, qui croient que Jésus est vraiment tout puissant. Waouh! Qu'est-ce que j'aime bien ça! Est-ce que vous croyez que Jésus peut transformer les circonstances de nos vies d'une manière radicale? Waouh! Eh bien, je suis content d'entendre ça. Est-ce que vous croyez que Jésus peut aujourd'hui encore nous conduire dans un autre réveil? Amen! Il y en a qui attendent le réveil. Chouette! Est-ce que vous pensez que Jésus peut nous transformer, nous, transformer notre caractère d'une manière profonde? Eh bien, le Seigneur est témoin de votre amen. Et c'est chouette. Que le Seigneur vous aide. Parce que ce que je voulais dire ce matin, c'est notre regard du Seigneur Jésus détermine notre façon de marcher, détermine la puissance de nos prières, détermine la puissance de notre vision, détermine notre façon de servir. C'est ce que je voudrais partager aujourd'hui. C'est que ce texte nous invite à nous rendre compte de la supériorité de la Nouvelle Alliance et de notre rôle important pour faire avancer le royaume de Dieu et le montrer dans son vrai visage. Mais pour cela, nous avons besoin de le croire. Nous avons besoin de croire que Dieu est capable, aujourd'hui encore, de faire. Ce texte nous invite aussi à vivre notre liberté en Christ et à le servir dans cette liberté. C'est pour la liberté que nous avons été sauvés. Mais cette liberté ne veut pas dire faire tout ce qu'on veut. Cette liberté veut dire s'attacher au Seigneur, faire les choses sans que le Seigneur nous y contraigne, simplement volontairement. Oui, il y a aujourd'hui un débarquement en vue. Il y a un réveil dont nous pouvons être les artisans à côté du Saint-Esprit. Il y a aujourd'hui des gens à gagner dans ce pays. Même si on voit une puissance de la laïcité, on voit une opposition, on voit que de plus en plus les gens, les non-croyants, se permettent de plus en plus des choses, mais nous pensons et nous croyons que le message de l'Évangile est encore puissant aujourd'hui pour sauver. Nous pensons qu'on peut se mettre en route aujourd'hui pour gagner des âmes. C'est le défi que nous devons nous mettre. C'est le défi que nous devons regarder. Et pour cela, nous avons à regarder à Jésus. Nous devons regarder pas seulement Jésus comme grand et capable de nous conduire dans ce mouvement de réveil, mais nous devons aussi regarder l'ennemi comme quelqu'un qui a perdu. Un peu comme ces Allemands qui, lorsqu'ils entendent le bruit de la défaite de leurs congénères là-bas, plus loin, ils savent que leur temps est compté. Notre ennemi, son temps est compté. Il va aller dans l'échec. C'est à nous de le croire. Et quand il entiche les épouvantails, vous savez, les épouvantails, ça sert à quoi? À faire fuir les oiseaux dans le champ. Les oiseaux croient que c'est une personne, alors que ce n'est pas une personne. Satan utilise souvent des épouvantails dans nos vies pour nous faire peur, nous bloquer, nous empêcher. Et nous avons à nous dire, il a été vaincu. Il y a un chemin. Il y a une route que Dieu se trace. Nous sommes ses soldats en marche. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est tout simplement la vérité. Mais la façon dont chacun et chacune reçoit la parole dépend de toi, dépend de la relation avec toi, parce que par le Saint-Esprit, toi tu connais chacun de nous personnellement. Tu sais comment lui parler. Ma prière est que tu imprimes ta parole dans les cœurs de chacun et que tu travailles avec cette parole pour transformer chacun de nous, nous tous, pour nous aider à être ces chrétiens que tu veux que nous soyons. Seigneur, je me joins à la prière de tous ceux qui l'ont déjà demandé ainsi et je demande d'agir dans nos vies parce que tu es plus que le temple, tu es plus que tout ce que nous croyons et nous faisons. Merci Seigneur de te révéler, de révéler ta grandeur dans nos vies et ainsi de nourrir notre foi pour rechercher des grandes choses pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.